Même audio. Vous ne l'avez pas vu? Vous pouvez l'entendre.
On va maintenant engager ce petit temps d'échange et de discussion autour de l'héritage d'Alice Mia avec quatre sportifs et sportives de haut niveau au parcours qu'on pourrait considérer comme atypique et qui vont nous montrer au travers de leur cas particulier, autour de leur expérience personnelle, comment en fait ils ont combattu les stéréotypes, combattu les préjugés, comment ils continuent à le faire pour vivre leur passion, vivre leur activité sportive, mais aussi pour faire finalement avancer d'un point de vue social les mentalités. Alors avant de commencer réellement, je vais les présenter, mais à travers leur palmarès, parce qu'aujourd'hui on parle de sport, et donc vous allez voir que vous avez affaire ce soir à un sacré plateau. Donc Nicolas Barre, vous êtes tout au bout, vous êtes né à Toulouse, vous avez d'abord démarré au club de football, et elle y tient, au club de football de la Faourette et de Colomiers, vous avez remporté par la suite avec vos clubs respectifs suivants 8 championnats de France, vous avez intégré l'équipe de France en 1977, vous avez obtenu le titre de meilleure buteuse en 1983, et vous avez connu le premier championnat d'Europe féminin de football. Manon André, vous êtes ici, vous êtes née à Muret. Vous avez découvert le rugby à l'université, vous êtes devenue troisième ligne à l'équipe de Saint-Aurens et de Blagnac, puis en équipe de France avec plus de 50 sélections, et vous avez remporté le grand chelem du tournoi des 6 nations et terminé troisième de la Coupe du Monde en 2010, 2014 et 2017. Alors, Peterson Sius, qui est à ma gauche, vous arrivez de région parisienne, exprès pour cette journée. Et à l'âge de 10 ans, vous avez découvert la gymnastique rythmique, anciennement appelée GRS, et vous êtes devenu champion progressivement régional, national et international, en France, en Espagne et aux Pays-Bas, sur différentes compétitions ouvertes aux garçons et aux hommes. Et enfin, Christian Frigerio, vous êtes né en Italie, vous vous êtes lancé sur le tard dans la natation artistique, que communément appelée natation synchronisée, d'abord à Paris, puis au TNS de Toulouse. Et vous êtes, et c'est paradoxal, devenu champion du monde avant de devenir champion de France, champion du monde à Budapest en 2017, en équipe mixte avec Claire Mortier et Nicolas Speranza. Puis vous êtes devenu champion de France par deux fois, lorsque la compétition s'est ouverte aux hommes sur notre territoire national. Alors, je vais vous poser quelques questions et d'abord, finalement, de comprendre comment vous êtes arrivé individuellement dans vos parcours à ce sport qui ne vous était pas finalement socialement destiné, puisqu'il est toujours en grande majorité, voire parfois exclusivement pratiqué par des personnes de l'autre sexe. Et je voudrais commencer par vous, Nicolas Barre, parce que c'est un épisode un petit peu rocambolesque et qui dit beaucoup de choses sur la question du genre. Donc, si vous voulez prendre le micro, nous expliquer comment vous êtes entré pour la première fois sur un terrain de football et au sein d'une équipe.
Alors, j'ai l'habitude de dire, parce qu'on me pose souvent cette question, pourquoi tu as choisi le foot ? Ben moi, c'est le foot qui m'a choisi. Et en fait, j'étais sagement assise, comme peut l'être une petite fille, sur un terrain de foot. J'ai déménagé du quartier Saint-Cyprien pour aller dans le quartier de la Farouette où il y avait un beau terrain de foot, un beau gymnase, mais il était fermé, on ne pouvait pas y aller. Et donc j'étais assise sur ce terrain de foot et je regardais des garçons jouer. Et l'entraîneur qui est sur le terrain, en train de pratiquer avec des petits garçons, vient vers moi, comme ça, directement, il me dit « Viens, tu vas jouer ». Et alors je lui dis « Mais non, moi je ne veux pas jouer, je ne sais pas jouer. Je ne veux pas. Donc je résiste. » Et il insiste beaucoup et il me dit « Si, si, écoute, j'ai besoin d'une licence parce que si je veux que ces petits joue le week-end, j'ai besoin d'inscrire une équipe en compétition, il me manque une licence. » Je souligne toujours la passion de se diriger en bénévole pour ses enfants, pour les faire jouer le samedi ou le dimanche. Et je résiste encore, je dis « Mais non, mais moi, je peux pas jouer. » Donc, un, je ne veux pas jouer, et deux, je ne peux pas jouer parce que c'est pas autorisé, je suis une fille, je peux pas jouer au foot. Et là, il me dit, écoute, c'est pas grave, on va t'appeler Nicolas, je vais faire ta licence, et tu joueras quand même. Et donc, de joueuse alibi, en fait, j'étais juste une joueuse alibi, en fait, je faisais juste le nombre. Eh bien, la magie a opéré, je dis perlimpinpin, pomprenelle et Nicolas, le marchand de sable, je ne sais pas. Le fait est que je suis rentrée sur le terrain par politesse et que ça a été une révélation pour moi, ça a été génial. Je suis devenue brillante, exceptionnelle, j'étais très forte, je ne sais pas pourquoi. Hein. Et en plus, je marquais tous les buts, je suis devenue buteuse. Et là, il n'y avait aucun problème avec les garçons qui me choisissaient en premier quand ils faisaient les équipes. Donc, j'ai envie de dire merci au football de m'avoir choisie. Et merci aussi de m'accompagner tout au long de ma vie, parce que c'est encore grâce à lui que je suis là ce soir avec vous. C'est un honneur et un grand plaisir.
Donc en fait, c'est un peu par hasard, hein, autour d'une confusion sur votre identité, que vous êtes entré pour la première fois. Alors après, c'est évidemment le talent et le travail qui a fait le reste. Mais Christian, finalement, votre arrivée en natation artistique, elle ressemble, j'ai trouvé en tout cas, un petit peu au cas de Nicole, même si vous êtes arrivé à la natation beaucoup plus tardivement, en tout cas la natation artistique. Et là encore, c'est un petit peu pour faire plaisir, finalement, que vous êtes arrivé dans ce bassin-là.
Oui, effectivement, donc ce n'était pas recherché, je ne connaissais pas, quand j'étais en Italie, la natation synchronisée, donc actuellement natation artistique. J'étais en revanche nageur et en traversant le bassin, je nageais à Montparnasse, dans une piscine parisienne, il y a deux bassins, je traversais un bassin pour aller m'entraîner en natation sportive au fond de ce complexe, et dans le premier bassin, il y avait une équipe de nageuses de natation synchro qui était l'équipe tenant de titres tous les ans, c'était le Racing Club de France, et ils étaient voilà, formidables, ils faisaient des performances magnifiques, donc en pensant, on regardait souvent. Et en fait, elles nous ont aidés, nous les nageurs sportives, pour un événement, pour une prestation qu'on devait réaliser dans le cadre d'une compétition. Et c'est comme ça qu'on a découvert la natation synchronisée. Et ça a été non seulement pour moi, mais pour aussi d'autres garçons en révélation. Et on a vraiment accroché, aimé. Et à fur et à mesure, on est passé à la compétition et on a continué. Et j'ai pratiqué ce sport pendant 20 ans et c'est un sport formidable, même si pour les garçons, il n'est pas considéré comme un sport d'homme.
Alors on y viendra, mais Manon, vous aussi, finalement, votre entrée, un petit peu comme Christian, elle s'est faite dans le rugby un petit peu tardivement, on va dire à l'entrée à l'université. Vous aviez voulu, vous aviez eu envie au collège et puis ça n'avait pas pu se concrétiser. Et comment est-ce que les choses se sont faites à l'entrée à l'université ?
Et oui, effectivement, au collège, j'avais voulu jouer au rugby, mais j'avais du mal à trouver des filles qui voulaient jouer avec moi. Donc, elles faisaient toutes du basket, donc j'avais fait du basket à ce moment-là. Et c'est un peu une opportunité. Le rugby qui est venu sur ma route aussi, puisque je suis arrivée en retard à la réunion de rentrée en STAPS. Et je me suis assise à côté d'une fille avec qui on a discuté. Et elle me dit, je suis joueuse de rugby en UNSS, donc au lycée. UCEP, excusez-moi. Non. Bon, bref. Au lycée, excusez-moi. Ouais. Voilà. Et j'aimerais bien jouer au rugby à la fac. Et je dis, ah, ben, ça me plairait, moi aussi, j'ai jamais pu, etc. Et alors, je l'ai recroisée par hasard une deuxième fois en soirée, cette fois-là. Et là, elle a pris mon numéro de téléphone et elle m'a appelée en me disant... ça y est, on a réussi à créer une équipe de rugby à l'université Paul Sabatier en STAPS, c'était la première. Viens t'entraîner. Et donc, je suis allée m'entraîner et ça a été réellement une vraie révélation. Je joue au basket à ce moment-là, j'ai fini la saison au basket et la saison suivante, je me suis inscrite au rugby à Saint-Orens à l'époque.
Et enfin, Peterson, donc vous êtes le plus jeune de l'équipe de ce soir. Et c'est assez symptomatique puisque votre découverte finalement de la gymnastique rythmique, elle s'est faite à l'ère du numérique, c'est bien ça ?
Oui, alors pour moi, la découverte de la gérale s'est faite de manière très anodine. Il fallait absolument que je trouve un sport dans la mesure où j'habite dans un quartier sensible de Cergy et donc il était impératif pour ma mère de trouver une activité après l'école. Mais je ne savais pas quoi faire. Et un jour, par hasard, je suis tombé sur une vidéo YouTube de gymnastique rythmique. Et ça m'a tout de suite intrigué. Je trouvais que ça ressemblait beaucoup au cirque et que c'était un petit peu comme une sorte d'univers parallèle avec toutes les couleurs et tous les strass. Et j'avais trouvé ça vraiment incroyable. Et au final, j'ai demandé à ma mère de bien vouloir m'inscrire. Aucun de nous deux, à ce moment-là, savait que c'était une discipline uniquement féminine. Et c'est lorsque ma mère a appelé le premier club qui était autour de chez moi qu'on s'est rendu compte qu'il y avait un problème parce que la prison ne voulait pas m'inscrire. Et au final, elle avait bien laissé... elle avait donné l'autorisation à ma mère de venir voir un cours d'essai, et j'y suis allé. Ils m'ont fait faire des espèces de petits tests, et comme c'était très bien passé, la saison suivante, ils m'ont laissé intégrer le club.
En fait, vous avez en commun, pour ceux qui ont démarré les plus jeunes, j'avais imaginé qu'il y aurait pu y avoir un modèle dans la famille, quelqu'un qui vous aurait montré le chemin, tracé la voie. Et en fait, ça n'a été le cas chez aucun d'entre vous. Mais vous avez pu avoir en commun, chez ceux qui ont démarré les plus jeunes, en tout cas Nicole et Peterson, le fait d'avoir eu des parents qui ont accepté votre choix. Vous n'avez pas eu d'opposition à surmonter et finalement, ils vous ont laissé une certaine liberté dans la pratique. Mais pour autant, on peut imaginer que les difficultés ont existé, que vous avez dû faire face à des représentations et des stéréotypes, voire même à des critiques plus ou moins fortes. Et je voudrais démarrer par vous, Peterson, puisque dans votre cas, ces critiques ont été très violentes durant votre jeune âge particulièrement, et sur différents registres, parce que concernant la gymnastique rythmique, vous m'expliquez qu'il n'y a pas que les questions de genre qui entrent en considération, et de façon étonnante aussi, les critiques n'émanaient pas forcément des enfants, comme on aurait pu s'y attendre.
Oui, alors lorsque j'ai commencé la gymnastique rythmique, ce qui s'est passé, c'est que ce n'était pas forcément les enfants, les gymnastes qui me harcelaient, pas du tout. Au contraire, c'était les gymnastes qui venaient vers moi et qui me permettaient de me sentir bien au gymnase, mais c'était leurs parents qui avaient des critiques à la fois homophobes, racistes, beaucoup, et sexistes sur ma pratique. Donc ça pouvait aller de... petite micro-agression hebdomadaire à de plus gros problèmes comme des insultes en face de tout le monde ou petite anecdote, un jour on m'a oublié le jour pour aller au championnat de France, on a oublié de venir me chercher. La personne qui devait venir me chercher était l'une des personnes qui m'insultait régulièrement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'au final, ma mère a dû payer un billet de train en plus pour arriver pile à temps pour participer au championnat de France parce que cette personne m'avait oublié. Donc voilà, c'était vraiment du harcèlement plutôt de la part des parents que de la part réellement des gymnastes.
Et en fait, vous expliquez, bon, évidemment, c'est d'une violence qu'on a du mal à s'imaginer. On parle de quelque chose qui a moins de 10 ans. Hein. Et vous expliquez, en fait, que c'est à cause, finalement, selon vous, d'une vision très restrictive et très réductrice de ce que devrait être le féminin, que la pratique est fermée aux hommes. Et paradoxalement, elle est aussi fermée à beaucoup de filles qui ne rentrent pas dans ces critères, dans ces stéréotypes.
Oui, alors on l'a bien vu dans le documentaire l'a bien illustré, que la gymnastique, et particulièrement la gymnastique rythmique, a été fondée dans l'objectif de créer une représentation très stéréotypée et très féminisante de la femme, et que par conséquent, cette activité était principalement, voire uniquement dirigée vers les femmes, et que donc tous les hommes qui s'intéressaient à cette discipline ne serait simplement pas accepté. Et aujourd'hui, malheureusement, c'est une tradition qui est perpétuée et pour lesquelles, aujourd'hui, ben, en 2024, la GR sera le dernier sport olympique uniquement féminin. Donc voilà, on en est aujourd'hui à cause de ces stéréotypes qui sont véhiculés depuis le début de la GR.
Christian et Manon, vous qui avez commencé plus tard à l'âge adulte, est-ce que vous avez ressenti le même poids, les mêmes types de représentations, les mêmes discriminations, on pourrait dire, je pense que le conditionnel peut s'enlever, que celles décrites par Peterson? Est-ce que vous avez eu l'impression de devoir faire face aux mêmes obstacles?
Non, de mon côté, ça a été plutôt un accueil assez enthousiaste de la part du public, de la part des coéquipières, de la part des clubs. En revanche, de la discrimination, je pus en avoir au niveau de la compétition par d'un jugement de la part des juges, la natation synchronisée peut-être comme la GR, bah, les juges, enfin c'est pas un temps, c'est pas une longueur, c'est un jugement qui tient en compte de, qui n'est pas nécessairement justifié, c'est voilà, le ressenti du juge qui le transmet sur une note. Et bah, on s'est rendu compte que quand c'était deux garçons qui passaient ou un garçon, et bah, certains juges ils mettaient tout au fond du classement alors que c'était objectivement pas justifiable. Et dans ma carrière aussi, parce que j'ai nagé pendant 20 ans et j'ai changé aussi plusieurs clubs, il m'est arrivé aussi d'avoir des entraîneurs qui m'ont clairement dit bah, « tu as plus que le niveau pour intégrer l'équipe, je ne te prends pas puisque je pense que tu peux pénaliser l'équipe étant un garçon puisqu'il y aura des juges qui vont donner une mauvaise note » du fait qu'il y a un garçon dans l'équipe. Donc c'est plus dans ce sens-là et pas nécessairement dans, voilà, dans des propos ou dans un accueil malveillant ou discriminatoire de la part de coéquipières. Et,
une forme de disqualification finalement, mais avec des attaques moins violentes que ce que Peterson a pu décrire.
Oui.
Et Manon, vous de votre côté ?
Moi non plus, j'ai pas été heurtée, notamment en club ou à l'université, à ce genre de discrimination. Après, à l'âge où j'ai commencé le rugby, donc j'avais 18 ans, je savais que je m'investissais dans un sport qui était dit masculin et je savais toutes les représentations, les stéréotypes que ça pouvait avoir. Donc, comment dire? Enfin, à la différence d'un adolescent ou d'une jeune fille qui est peut-être après qui a juste envie de jouer au rugby, moi là je savais aussi où je mettais les pieds, donc ça a été peut-être plus simple d'accepter, enfin pas d'accepter mais d'encaisser les remarques et de les laisser couler.
Nicole, en sociologie du sport, en anthropologie du sport, on observe souvent que la transgression des filles vers l'univers masculin est davantage tolérée, acceptée que l'inverse. Pour autant, vous, une fois devenu entraîneur de filles en foot, finalement, c'est là que vous avez été heurté davantage qu'étant plus jeune par les discriminations sexistes. Et finalement, vous avez fait condamner un club pour discrimination pour la première fois en France.
Oui, en fait, depuis le début, moi, j'ai compris que j'étais une bizarrerie, une anomalie, en tout cas déjà par la situation dans laquelle je me trouvais. J'étais la seule fille qui jouait avec des garçons. Tous les week-ends je jouais, je ne voyais pas de filles. Il n'y avait que moi pendant tout le temps où j'ai joué avec des garçons. Et quand il a fallu abandonner, quitter la pratique masculine, parce qu'il y a un âge où on ne peut plus continuer, j'ai rejoint donc effectivement le club de Colomiers. Et là, la perception que j'ai eue dans cette adolescence-là, c'est qu'en en fait, on était tolérés. On était assez nombreuses pour faire une équipe. On acceptait qu'on fasse des petits matchs par-ci par-là, mais il n'y avait pas de championnat. On coûtait pas trop d'argent. On n'avait pas d'entraîneur. Enfin, voyez. Donc, tant qu'on fait ça, c'est presque ce que disait Coubertin et le film. Je viens de dire un mot tout à l'heure, mais tant qu'on faisait pas trop de bruit, qu'on prenait pas trop de place et qu'on prenait pas d'argent, voilà. On était tolérés et nous savions être sous la menace. La menace, c'était d'être mise à la porte, parce que c'est ce qui se passait. Alors ça se passait pour le rugby, ça se passait pour nous, pour le foot, ça se passait dans d'autres disciplines. À un moment donné, il y a des gens qui décident que vous n'avez plus votre place dans le club. Et on vous dit, ben, vous ne revenez pas. Bon, dans cette menace-là, moi, je n'avais jamais fait de vague. J'adore le foot, je me suis contentée de jouer. Effectivement, quand j'ai arrêté ma carrière, je suis allée international et national, j'ai voulu continuer à jouer au foot le plus longtemps possible dans un club à côté de chez moi, à Sceaux, à Plessis Robinson, dans les Hauts-de-Seine. Et un jour, on a gentiment levé le doigt, très poliment, on avait écrit un projet, et on a osé demander pour les féminines la possibilité d'avoir une ambition sportive pour monter en deuxième division. Donc nous jouions au plus haut niveau régional, les garçons jouaient deux niveaux en dessous de nous. Et il nous a été répondu, non, il n'en est pas question. Notre projet à nous du club, c'est les garçons, faire monter les garçons d'une division. Vous, les filles, ça ne nous intéresse pas. Je précise qu'on ne coûtait déjà rien. Hein, les garçons, ils avaient tout, des primes de match, des survêtements, ils avaient tout. Hein. Nous, on ne coûtait rien. Donc, pour une fois, on demandait quelque chose. Et là, la situation s'est tendue à un point qu'il y a une assemblée générale qui est convoquée et ils font voter des gens qui ne sont pas là. Et on nous dit, donc à 8h30, vous êtes là depuis 18 ans pour certaines, et à minuit, on vous dit, ben, terminé pour vous. Ce que j'ai toujours redouté depuis le début de ma pratique du football est arrivé à moi. On me dit, ben, avec tous les licenciés du club, y compris mes petites, ben, demain, c'est fini, vous n'êtes plus dans le club, vous ne revenez plus. Vous n'avez plus le droit de venir dans ce club. On n'a pas cassé de vestiaire, on n'a pas agressé d'arbitre, on ne coûte rien. Mais c'est à nous qu'on demande de partir. Et là, j'ai fait le rapprochement avec mon parcours de silence, de soumission, d'acceptation de ces conditions pas correctes. Parce que même si j'ai joué à très haut niveau, je ne vais pas vous décrire dans quelles conditions... On jouait quand on était en équipe de France, mais je jouais avec des chaussettes qui m'arrivaient au mollet parce qu'on jouait avec les chaussettes des garçons. Voilà, le talon m'arrivait au mollet. Bon, c'est tout un tas de détails, mais tout ce qui comptait, c'était de jouer. Et là, on nous dit, vous jouez plus. J'ai pas accepté. J'ai pas accepté pour moi, par rapport aussi à une histoire de racisme. La soumission, par moment, il faut que ça s'arrête. Et j'ai tendance, j'ai souvent envie de dire, mesdames, mettons-nous en colère. Osons assumer de nous mettre en colère. Même si on nous traite d'hystérique, à un moment donné, il faut dire stop. Alors moi, qui ne me suis jamais battue sur rien, qui n'ai jamais pris la parole sur rien, parce que bon, voilà, on est discret, on est contente de jouer, et on ne se fait pas remarquer. C'était aussi une injonction parentale. J'ai regardé ces petites, et je me suis dit, bah, si tu fais rien, comme toi, toute leur vie, elles vont accepter, elles vont se taire, elles vont se soumettre, et elles vont croire que ce qui se passe, c'est normal. En fait, non, c'est eux qui ne sont pas normaux dans leur comportement. Et donc, pour ces petites filles, j'ai dit, c'est pas possible, il faut se battre. Et là, j'ai pris sur moi pour prendre la parole, pour aller voir les parents, leur dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que vous ne pensez pas que... J'ai proposé de porter plainte. Et on nous a traité de plein de choses. J'étais même obligée de faire un procès pour injure publique au maire du Plessis-Robinson. Mais au bout de 5 ans, on a gagné. Voilà, on a gagné le droit de faire reconnaître comme victime dans une association 1901. Il y a des hommes, il y a des femmes, il y a des personnes en situation de handicap, il y a des personnes du troisième âge. Mais voilà, une association 1901, c'est notre république, quoi. Elle accueille tout le monde et elle doit essayer de partager le gâteau avec tout le monde et d'essayer d'être le plus équitable, le plus juste possible pour que chacun et chacune trouve sa place. Voilà, et je suis passée donc du silence à la colère. J'ai eu besoin de la colère, hein. J'étais un peu agressive dans mon début de parcours, à avoir gagné ce procès et à faire un projet plus précis, plus concret, plus éducatif derrière. Mais il a fallu que je passe par cette colère pour dire stop, non, c'est pas normal, et faire condamner le club du Plessis-Robinson. Donc c'est une jurisprudence française. Je pense que c'est aussi une jurisprudence européenne. Personne, aucune autre femme dans aucune autre discipline, je pense, n'a fait cette démarche. Et il fallait gagner un procès.
Il fallait le moment du refus, en fait, et de dépasser les injonctions oui. Au silence et à l'obéissance que vous aviez pu recevoir sous plein d'aspects différents. Oui. Et donc, en fait, on se rend compte que ces stéréotypes et ces difficultés, elles sont variables hein, en fonction des parcours, en fonction des sports, en fonction de l'âge et du genre des individus. Mais finalement, beaucoup d'attaques, et là, il y a vraiment un continuum avec l'histoire d'Alice Mia et de toutes ces camarades, c'est que ça porte en fait très rapidement sur le manque supposé de féminité des uns, le manque supposé de virilité des autres, la question de l'orientation sexuelle supposée des individus est-elle aussi mise en jeu, discutée comme un objet public, un sujet de débat.
Même audio, une mémoire sonore.
Finalement, d'autres questions pourraient être soulevées et sont soulevées, notamment concernant cette fois des inégalités et des discriminations d'ordre économique et social, qui ont des répercussions bien concrètes aussi, qui ne sont pas uniquement symboliques, même si, évidemment, elles sont rattachées au plan symbolique. Et pour illustrer ce que je suis en train de vous dire, je voudrais faire un petit sondage à main levée avec nos invités. très rapide. Je pense que vous allez comprendre, mais lequel ou laquelle d'entre vous a directement vécu de son sport durant sa carrière d'un point de vue financier ? Qui est-ce qui a vécu de son salaire de sportif pour, durant sa carrière internationale ? Qui a bénéficié d'un sponsoring complet pour l'achat de l'ensemble de son matériel sportif et de ses déplacements en compétition et ses déplacements sportifs ? Aucun. Et par contre, qui a eu à pratiquer une activité professionnelle à temps plein, malgré des palmarès nationaux et internationaux, pour pouvoir vivre son sport et vivre tout court ? Alors évidemment, le résultat, il est éloquent. Hein. Bon, il est attendu, mais parlant de champion de niveau national et international, ça, quand même, ça ne cesse d'étonner. Et finalement, il y a une forme d'égalité dans les inégalités, s'agissant de pratiquants et de pratiquantes de sport perçus comme non conformes au sexe des individus. Manon, en parlant de médiatisation, de sponsoring, parlant de professionnalisation, dans le rugby, quelles évolutions est-ce que vous avez pu constater entre la fin de votre carrière, qui est très récente, et aujourd'hui? En fait, il y a plein de choses qui se sont passées. Quelles inégalités continuent à exister d'après vous, et par rapport aux hommes, hein, sportifs professionnels, en tout cas rugbymen professionnels, et quel impact ces inégalités ont, d'après vous, concrètement sur les carrières et les performances des rugby women, des pratiquantes du rugby?
Alors, il y a beaucoup de choses à dire.
Donc, qu'est-ce qui a changé d'abord, d'après vous, en peu de temps?
Moi, j'ai commencé du coup le rugby en 2007. Et en parallèle, j'ai commencé à travailler à la fin de mes études de STAPS au sein d'une association d'éducation et d'insertion par le rugby, donc l'association Rebond. Donc, j'étais joueuse de rugby. Et en parallèle, j'allais dans les écoles, principalement, enseigner le rugby éducatif à des jeunes. Quand j'ai commencé le rugby... quand je disais, on me disait, ah, tu fais du sport? Oui, je fais du rugby. Ah bon, il y a du rugby qui existe pour les filles? J'avais, en 2007, ce genre de réponse. J'ai même eu des fois des gens qui m'ont regardé et qui sont un peu partis effrayés. Je l'ai eu une fois. Et c'était il y a 15 ans à peine. Pour l'association Rebond, lorsque j'intervenais, que j'allais expliquer aux parents que leurs filles pourraient jouer au rugby, c'était pareil. Il y a du rugby pour les filles, mais les filles ont le droit de jouer au rugby. Ah bon, j'ai jamais vu, etc. Et puis, j'ai fait ma première Coupe du Monde en 2010 en Angleterre, dans le plus grand anonymat, dans une université, une vraie Coupe du Monde, qui était grandiose, mais qui était dans la plus grande anonymat, excusez-moi. Et ensuite, il y a eu la Coupe du Monde 2014 en France. Elle était au mois d'août et on a fait un premier match qui était très beau, qui était médiatisé, mais sur des chaînes persona. Et on a fait un très beau résultat. Et à partir de là, le Tour de France était fini, il n'y avait pas trop de sport à la télé. Hop, il y a des chaînes qui ont commencé à s'intéresser à nous. Pour la première fois, on est sorti des matchs avec des médias qui nous questionnaient. Ils venaient nous chercher, etc. Enfin, j'avais jamais connu ça en 5 ans de carrière. Et quand je suis revenue après la Coupe du Monde, donc on finit 3e, on a été médiatisé, etc. Donc déjà, il y avait des gens qui me reconnaissaient dans la rue. Et puis quand je suis revenue dans les écoles, les enseignants et les enfants avaient vu le rugby à la télé. Et là, ça devenait vrai. C'est-à-dire que comme c'était à la télé, comme c'était médiatisé, c'était un sport. Donc là, vraiment, 2014 pour moi était une vraie bascule. Pour autant, on ne s'intéressait pas encore assez, à mon sens, à notre résultat. On s'intéressait à ces femmes qui faisaient du rugby. Et c'est ce qui était déjà très important. Mais là où réellement ça a pu avoir un impact, c'est quand on s'est intéressé à notre performance et qu'on est venu nous questionner, pas sur « alors c'est dur de jouer au rugby quand on est une fille », mais plutôt sur « alors ce match, alors à un moment donné il y a eu cet essai, la touche, vous avez capté le ballon, c'était technique ». Et c'est de ça que nous on a envie de parler, les sportives, et c'est ça qui donne envie aux jeunes filles, aux jeunes garçons, enfin, à tout le monde de faire du rugby.
D'un point de vue matériel, est-ce qu'il y a des choses, voilà, a permis des avancées?
Tout à fait. C'était la fin de la question que vous me posiez. Effectivement, ça a eu un impact, tout simplement parce que aujourd'hui, vous avez demandé est-ce qu'on a vécu de notre sport. Alors moi, j'ai arrêté en août 2017 et en septembre 2017, elle devenait professionnelle. Donc j'en ai jamais bénéficié. Mais si j'avais pu être professionnelle, quand je rentrais d'un match à 2h du matin, parce qu'on joue à Lille et qu'on y allait en bus, à 2h du matin, on arrivait, toute courbaturée dans notre match, etc. Et à 9h, on était au bureau à travailler. Et le soir, il y avait re-entraînement et il fallait y aller à l'entraînement. Parce que si on ne s'entraînait pas, on n'allait pas être meilleur. Et du coup, ben, on n'allait peut-être pas pouvoir développer notre sport, etc. Et ben, si j'avais été professionnelle, peut-être que le lundi, j'aurais récupéré et que ma séance d'entraînement du lundi soir, elle aurait été meilleure. Et donc, parce que j'aurais été meilleure, comme d'autres mes coéquipières, peut-être qu'on aurait eu de meilleures performances plus rapidement, qu'on serait plus médiatisé. Et le média, c'est ce que cherchent les sponsors. Les sponsors, ils veulent être visibles. Ils vont pas nous donner des sous si en fait il y a personne qui regarde notre maillot, s'il y a personne qui nous voit à la télé. Donc parce qu'on a été, c'est parce qu'on a des résultats qu'on est médiatisé et qu'on peut avoir un financement et devenir professionnel.
Le passage au statut professionnel a été extrêmement marquant, quoi, une étape, un pivot. Quoi.
Il a été marquant pour nos carrières de sportives. C'est-à-dire que, alors, je ne le dis pas parce que je l'ai vécu, puisque je ne l'ai pas vécu, mais mes coéquipières qui ont connu ce changement, elles sont plus dans un état de fatigue permanent. Et elles voient vraiment leur performance augmenter. Parce qu'elles peuvent récupérer, tout simplement. C'était juste de la récupération qui nous manquait.
Oui, des conditions qui permettent de se consacrer pleinement au sport. Christian, vous m'avez dit, pour préparer cette soirée, je me souviens, je l'ai noté cette phrase, que vous aviez l'impression d'être arrivé 20 ans trop tôt dans votre discipline, parce que en natation artistique, vous avez vu les règlements évoluer, changer au fur et à mesure, et s'ouvrir progressivement à l'arrivée des hommes et aux carrières masculines. C'est bien. Est-ce que vous vouliez...
Oui, c'est ça. Où les règlements ont évolué 20 ans trop tard, en fait. Mais en tout cas, effectivement, quand j'ai commencé en 1998, pour pouvoir participer aux compétitions interrégionales et aux compétitions nationales, un garçon, il fallait qu'il se confronte aux filles et qu'il prenne la place des filles. Et en fait, pour la natation synchronisée, tout est prévu pour les filles. Donc les garçons, ils n'étaient pas pris en compte puisqu'il n'y avait pas effectivement d'épreuve pour les garçons. Et c'est seulement à partir de 2015 qu'il y a une ouverture au niveau international où le genre a été reconnu pour une épreuve spécifique, c'est le duo mixte, où effectivement il faut être un garçon et une fille pour le nager. En natation synchronisée, il y a beaucoup d'épreuves. Hein. Il y a le solo technique, le saut libre, le duo technique, le duo libre, l'équipe technique, l'équipe libre, le ballet highlight, le ballet combiné. Donc il y a beaucoup, beaucoup d'épreuves. Et donc, à partir de 2015, seulement une de ces épreuves a été ouverte aux garçons. Et récemment, donc... il y a quelques mois, il y a eu l'annonce qu'en 2024, il y aura la possibilité pour les garçons, deux garçons, au sein d'une équipe, de pouvoir nager au JO. Donc c'est une belle ouverture. Je trouve que ça reste toujours assez limité et confiné, puisqu'il s'agit simplement de quelques épreuves. Mais ça donne l'espoir qu'en voyant donc, la pratique par des garçons au niveau international et au JO, il y aura beaucoup plus de petits garçons ou même des jeunes qui oseront franchir le pas et aller vers un club de natation artistique et pouvoir découvrir ce sport qui est magnifique.
Effectivement, ça laisse espérer des avancées dans toutes les disciplines que vous représentez. Et pour terminer, donc avant de laisser le temps des questions au public, j'aimerais évoquer la question de l'engagement pour faire changer les mentalités, faire changer les conditions aussi d'exercice des pratiques. Alors évidemment, tous les quatre, vous, par votre simple présence et vos résultats sportifs, vous faites bouger les lignes. Mais je voudrais parler plus précisément de l'engagement de Nicole d'abord et puis de Peterson. Nicole, parce que vous avez beaucoup milité depuis des dizaines d'années à la reconnaissance du football féminin et du sport féminin en général, et vous avez fondé une association, Liberté aux joueuses. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quand vous l'avez créée, avec quels objectifs et finalement avec le recul, qu'est-ce que vous avez l'impression d'avoir réussi à faire au travers de cette association Liberté aux Joueuses?
Alors quand j'ai décidé de me mettre en colère et de passer du silence et de la soumission à l'action, un procès ça coûte cher. Enfin, faut la justice, c'est pas gratuit. Bon, moi j'ai une carrière professionnelle, mais l'objectif de l'association, c'était de se dire on va se créer une structure qui va porter des valeurs, voilà, de lutte contre la discrimination, d'égalité dans le sport, en se référant à des textes, et en même temps d'avoir une structure juridique susceptible de permettre de recueillir des fonds pour assumer cette dépense du procès, ce que j'ai pas réussi finalement, et c'est moi qui ai payé tout. Et comme j'ai gagné, heureusement, j'ai été remboursée. Mais c'est aussi, je me souviens avoir entendu un procureur de la République toulousain dans une conférence débat sur les discriminations. C'est pas gratuit, la justice, c'est pas facile de porter plainte aussi de ce point de vue. Et c'est facile de dire oui, il faut se battre, il faut dénoncer, il faut ci, il faut là, mais en même temps, il faut des moyens. Donc le point de départ, c'est un peu ça, les valeurs, s'inscrire dans des valeurs et en même temps trouver une structure juridique pour recueillir des fonds. Bon, j'ai pas réussi, mais les valeurs étant là, c'était l'essentiel, c'était le socle. Une fois que ce procès a été gagné, je me suis rendu compte, en observant le président du club à la barre, qui était interrogé par le juge, en l'observant précisément, je me suis rendu compte que cet homme ne comprenait pas pourquoi il était là. Enfin, il prend la décision de mettre dehors 100 personnes, avec des petites filles qui ont entre 5 et 15 ans, enfin... Et pour lui, il n'a rien fait de mal, en fait. Il s'est comporté comme un bon gestionnaire d'une structure qui a un projet, qui a des moyens financiers, qui décide qu'il ne voit pas la violence, en fait. Et en le regardant, là, je prends conscience, alors j'étais super en colère après lui, hein, je prends conscience que lui aussi, c'est une victime des stéréotypes, en fait. Dans ses certitudes à lui, dans ses convictions, dans sa construction, eh bien, il est là et il affirme ce à quoi il croit profondément et c'est ce qu'il vit depuis toujours, depuis qu'il est né. De la même manière que nous, on avait, depuis qu'on était nés, accepté de se taire et de se soumettre. Et là, je me suis dit, mais alors, Nicole, bon, on a gagné ce procès, c'est très bien. Est-ce que tu as changé le monde? Parce que vous voyez, du coup, de soumise à silencieuse, en colère, procès, puis de seul coup, j'ai changé le monde, moi. Voilà, donc, pas chercher les chemins, des fois, c'est un peu bizarre. Et dans cette envie de changer le monde, je me suis dit, mais qui peut changer le monde? Comment on peut faire pour accélérer le changement du monde, faire advenir une société plus juste, plus égalitaire, plus épanouissante pour chacun dans nos différences, les hommes, les femmes, eh bien, c'est les enfants. Et je me suis dit, il faut que tu fasses un truc pour aller vers les tout-petits et les toutes-petites, en partant modestement, avec beaucoup d'humilité, juste de ce que je suis. Je ne suis pas une universitaire, je n'ai pas fait un bac plus 40 sur le genre et sur le sport et tout ça, même si j'ai des diplômes d'entraîneur. Je suis juste une sportive et je me suis dit, je reste convaincue que le point de départ qui fait que les femmes, les petites filles déjà, se trouvent confrontées à une limite de leur expression, c'est la perte de motricité dès le plus jeune âge. Voilà. Et en prenant conscience de ça, je me suis dit, tu mets ça, tu les mets en train de courir, j'en vois ta petite fille, je la vois courir partout, surtout qu'elle court toujours, voilà, faut veiller à ça. Donc, petit à petit, elle ne court plus, hein. Et je me suis dit, en plus de cette perte de l'usage du corps, de cette motricité, eh bien, on y ajoute toutes nos représentations, toute cette éducation qu'on véhicule tous, les uns et les autres, de manière inconsciente. Donc, tu mets première couche, puis on les met dans les coins, deuxième couche, les stéréotypes, et on contribue à faire, encore une fois, se perpétuer les différences entre les petites filles et les petits garçons. Et c'est ce projet qui s'appelle « Passe la balle », que j'ai créé il y a 20 ans. Et en créant ce projet... qui se déroule en 3 temps, eh bien, j'étais amenée un jour à le présenter. On m'a demandé, Nicole, viens au conseil régional d'Île-de-France, j'aimerais que tu nous parles de l'action que tu mènes avec les enfants. Ça marchait top, hein, et ça marche toujours top. Je dis, ok, bah, je viens, donc, je vais parler, je raconte ce que je fais. Et 20 ans après, je suis allée au conseil de l'Europe, j'ai travaillé avec des ministres, j'ai obtenu la Légion d'honneur, j'ai fait des conférences, c'est devenu mon activité. Je vous ai dit que le football était un destin. C'est toujours et encore le football qui fait en sorte que ma vie soit impactée, mais toujours positivement, dans quelque chose qui me grandit. Et à travers ce qui me grandit, ce qui me touche le plus particulièrement, c'est ce que je peux mettre au service pour faire grandir les autres. Et modestement, en tant que simple citoyenne, me dire bah, j'ai envie de contribuer à pousser, booster, changer les choses pour que ça aille plus vite, quoi. Mais... pour que ta petite fille, elle n'ait pas à vivre un débat comme ce soir, quoi, et qu'on ne se pose pas ce genre de questions. Et si tu avais un petit garçon, je dirais exactement la même chose, parce que ce qui me tient vraiment à cœur, moi, c'est les petites filles et les petits garçons en même temps. Et si on les fait grandir en même temps, en luttant contre cette reproduction des stéréotypes, eh bien, on va trouver à mettre un mot en valeur que j'adore, c'est le mot négocier. Et donc, ce n'est pas une assignation, une attribution selon le genre. Toi, tu dois faire ci, toi, tu dois faire ça. C'est juste, on est des personnes qui vivons ensemble. Et comme on est à égalité, on se parle, on se regarde, on se respecte et on négocie. Et s'il y a de la frustration, ben, on l'accepte. Parce que si je négocie, la frustration, c'est un cadeau.
Et finalement, vous me faisiez remarquer que c'était par votre activité associative que vous aviez eu la sensation d'avoir le plus de reconnaissance du monde institutionnel que lorsque vous étiez championne nationale d'un point de vue sportif.
Ouais, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ignorer. Et voilà, je regarde Tess parce que je vais la voir tout de suite à la fin du film. Ça fait deux fois que je vois Alice Mia, j'ai envie de le dire. Moi, ça me met les larmes aux yeux à chaque fois parce que moi, je suis une invisible. Tess, aujourd'hui, si tu voulais faire avec la Fondation un film où on voit Nicolas Barre en train de jouer au football, t'as pas d'image. Il y a zéro image de moi. Et j'étais avec des petits-enfants ce matin sur un terrain de foot, ils étaient 200, à Bram, et ils me posaient plein de questions, je débattais avec eux, je leur disais, ben, si vous tapez Nicolas Barre sur Internet, mais alors, vous allez trouver des tonnes de choses, mais tu trouveras jamais une image de moi en train de jouer. Et la question que je me pose, et c'est là que c'est hyper triste, c'est comment j'étais quand je jouais, en fait. Je ne me suis jamais vue jouer, moi.
Vous me disiez que vous n'aviez pas d'image de vous en mouvement. Non. Alors, on a des photos de vous, de très belles photos d'ailleurs.
Mais
pas d'image en mouvement. Et ça, c'est quelque chose finalement qui est très commun à l'histoire des femmes. Et lorsqu'on veut reconstituer l'histoire des femmes, c'est toute la difficulté, notamment des pionnières. Et c'est finalement peut-être que un des aspects exceptionnels du documentaire d'Alice Mia, c'est qu'on a énormément d'images en mouvement qui permettent de visualiser, de concevoir, d'incarner cette question. Peterson, je voulais conclure avec vous sur l'engagement, sur cette question de l'engagement. Et finalement, en prolongement de celui de Nicole, aujourd'hui, vous êtes, on parlait de l'héritage d'Alice Mia, mais vous en êtes un des héritiers aussi. Vous évoluez dans un sport qui reste encore aujourd'hui institutionnellement et légalement fermé aux hommes dans la majorité des compétitions officielles, les championnats d'Europe, les championnats du monde, les Jeux olympiques. Et donc, de votre côté, vous avez utilisé votre médiatisation pour interpeller le Conseil d'État. Vous avez été débouté et sur un autre plan beaucoup plus scientifique mais qui me parle aussi, vous êtes lancé dans un doctorat de STAPS sur la question des représentations du corps dans votre discipline et du corps masculin. Et finalement, est-ce que les deux ne vont pas dans le même sens, l'aspect juridique, le Conseil d'État, la médiatisation de cette question, et puis un travail beaucoup plus de fond sur la réflexion des stéréotypes de genre dans votre discipline?
Oui, alors la création du coup de l'association s'est faite en 2018, mais par but strictement personnel au début. Il faut savoir que j'avais eu rendez-vous avec la région Île-de-France pour pouvoir trouver un financement parce que la gymnastique commençait à devenir beaucoup trop chère et que pas de statut professionnel, donc pas de ressources. Et au final, la région Île-de-France a proposé de créer une association pour pouvoir recevoir des fonds qu'on n'a jamais demandé au final, parce qu'on s'est concentré sur d'autres aspects, comme l'aspect juridique et médiatique. Et à partir de là, on a, avec le cabinet Alénéovry, qui a proposé son aide de manière gratuite, ils nous ont proposé donc de lancer un recours administratif contre la Fédération française de gymnastique pour pouvoir permettre de créer des catégories masculines de gymnastique rythmique et de promouvoir la GR pour les hommes de manière générale. Ce qui a été débouté donc, par le Conseil d'État, qui a considéré que ce n'était pas le bon levier pour pouvoir statuer sur ce genre d'affaires. Mais ils nous ont proposé de nous concentrer sur le levier politique et médiatique. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance d'un point de vue média, dans le sens où je n'ai pas forcément eu à aller chercher les médias directement, mais ils se sont beaucoup intéressés à mon parcours parce que c'est assez atypique, je pense. Et de là, j'ai décidé, après mon master en management des organisations sportives, de commencer un doctorat donc en sciences du sport et du mouvement humain à l'Université Paris-Saclay. Et donc j'étudie le corps des hommes dans les sports de tradition féminine, et plus particulièrement ma discipline. Et l'objectif est d'expliquer de manière socio-historique les raisons de la non-inclusion des hommes dans cette discipline et de trouver des solutions pour pouvoir accompagner les fédérations et institutions en lien avec la GR.
Ce sont deux combats, je pense, parfaitement complémentaires. Alors, je vais en venir à ce moment merveilleux des remerciements. Évidemment, vous remerciez toutes et tous d'être venus jusqu'à nous ce soir. Remercier nos quatre témoins pour leur parcours que l'on qualifierait, je crois que le mot est à la mode, mais ce soir, on peut le dire, il est inspirant à plus d'un titre, notamment du point de vue des valeurs que leur parcours véhicule, de valeurs de la République dont parlaient nos élus tout à l'heure. Ce sont des parcours qui sont porteurs de tolérance, de notions de vivre ensemble, de mixité sociale. Donc merci à eux d'être venus là. Espérons que le chemin qui reste à parcourir le sera le plus rapidement possible et le plus complètement possible pour lutter contre les inégalités dont on a compris qu'elles persistent encore. Un merci à toutes les équipes qui ont participé à l'organisation de cette soirée et ils sont nombreux, je pense, au Chemin de la République, je pense à la mission démocratie participative, égalité femmes-hommes, au protocole, à la communication, à nos amis du service technique et à nos amis chauffeurs qui sont toujours là pour nous aider, quelle que soit l'heure. Donc merci à eux, à tous ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Vous allez avoir beaucoup d'autres moments concernant les rencontres pour l'égalité. Vous avez les programmes qui vous sont présentés, des soirées et des événements sur la lutte contre l'homophobie, contre le racisme, contre l'antisémitisme tout au long du mois de mars. Des événements tout au long de l'année aussi pour promouvoir l'égalité femmes-hommes, au travers du spectacle vivant, au travers de soirées-débats, de colloques scientifiques. Donc voilà, beaucoup de moments que le Conseil départemental essaye de vous offrir pour arriver à faire avancer toutes ces questions-là. Donc maintenant, je crois qu'on peut aller vers ce petit temps de convivialité qui nous attend au fond. Et encore merci à toutes et à tous et à nos quatre témoins.
Et merci à vous, madame. Merci à vous pour votre travail et votre organisation. Merci.
Même audio, une mémoire sonore.